7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et des matins politiques conformément au temps de parole fixé par le CSA. Bonjour Thierry Mariani, vous êtes député européen, membre du Rassemblement National. Un commentaire par rapport à ce que Camille Magnard vient d'évoquer, autrement dit le nouveau recul de l'extrême droite, la forte montée des Verts en Autriche.
Le recul de l'extrême droite, on s'en souvient, est dû à un scandale de corruption où leur leader, M. Strache, s'était fait prendre dans une affaire montée, on ne sait d'ailleurs toujours pas par qui, mais où il avait été proposé qu'il soit acheté par une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie. Et je le répète, cette affaire était montée, c'est-à-dire que les Russes y étaient pour rien. Voilà. Après,
En revanche, il avait accepté.
Il avait accepté, oui, non, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Il y a aucune défense pour... voilà. Ensuite, je constate que ces idées sont toujours à 16%, c'est-à-dire au-dessus des Verts. Excusez-moi, la présentation, on a toujours l'impression que les Verts passent devant tout le monde, mais en réalité, ils sont toujours troisième ou quatrième. Voilà, c'est une victoire, je crois que ça a bien été analysé, c'est une victoire surtout du chancelier. Maintenant, il va devoir gouverner en coalition. À lui de choisir quels sont ceux qui sont les plus proches des idées qu'il a défendues. Ensuite, je crois aussi que son score historique est dû à une partie des électeurs du FPE qui ont préféré voter pour le chancelier Kurz que pour le FPE qui effectivement s'était un peu carbonisé dans ce scandale de son leader.
Ce week-end, à Paris, il y avait une convention de la droite, c'est le titre qui était donné à ce rassemblement mené par Marion Maréchal, qui considère qu'il y a un espace pour cette sensibilité qu'on pourrait qualifier d'extrême droite conservatrice. Vous y étiez, Thierry Mariani ?
Non, j'y étais pas.
Pourquoi ?
J'étais pas là-bas parce que j'étais pas libre, mais je vous dis la vérité, même si j'étais libre, j'y serais pas allé. Parce que, écoutez, il y a deux sortes de moyens de faire de la politique et chacun est respectable. Ou plutôt, chacune est respectable. Il y a, je pense, ceux qui sont les mains dans le cambouis, qui font de la politique dans les partis politiques, quels qu'ils soient. Et puis après, il y a ceux qui sont dans les clubs, qui réfléchissent. Voilà. Marion Maréchal, se met de manière évidente dans cette deuxième voie. C'est tout à fait respectable. Mais c'est pas celle que j'ai choisie.
Mais on a l'impression quand même qu'il y a une compétition entre elle et Marine Le Pen. Alors vous êtes du côté de Marine Le Pen. Il y a un espace politique pour Marion Maréchal, d'après vous ?
Écoutez, les idées conservatrices, quand je vois le score de Monsieur Bellamy, j'ai quand même quelques inquiétudes. Voilà. Je pense qu'il y a un espace pour ceux qui veulent rassembler. Il faut rassembler au-delà d'idées qui sont intéressantes, mais qui ont vocation à se rassembler, à mon avis, dans un ensemble plus large. Je pense pas que le socle des valeurs conservatrices chrétiennes que je partage, je le dis bien très clairement, soit suffisant pour gagner une élection.
Alors chacun dit qu'il veut rassembler. D'ailleurs, Marion Maréchal a dit qu'elle souhaitait rassembler, que la victoire ne pouvait pas échapper à ce camp. D'après vous, elle est plus à droite que Marine Le Pen ? Comment la qualifieriez-vous ? Vous venez de dire conservatrice ?
Je crois qu'elle est plus attachée à certaines valeurs traditionnelles dans le débat politique. C'est sûr que Marine Le Pen, à mon avis, est beaucoup plus sociale. Marion est beaucoup plus libérale, beaucoup plus attachée au sujet de sociétés qui font aujourd'hui l'actualité autour de PMA, bioéthique, GPA, etc.
D'ailleurs, jadis, quand vous étiez au Républicain, Thierry Mariani, vous trouviez que sur les sujets sociaux, Marine Le Pen était trop à gauche.
Oui. C'était sur le paradoxe, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'évolution politique aujourd'hui, je veux pas polémiquer, mais on assimile quasiment Marine Le Pen à son père. Il y a aucune logique en ce qui concerne ou aucune suite en ce qui concerne les idées
politiques peut-être.
L'entourage a disparu, franchement.
L'entourage... Il reste des identitaires, il reste des gens qui ont frayé avec Alain Soral.
Franchement, pour des milliers de personnes qui sont autour ou dans ce parti, on retient deux ou trois personnes. Voilà, l'entourage qui avait formé le Front National dans son époque de création historique, aujourd'hui est plus là, tout simplement pour des raisons d'âge, voilà, comme dans tous les partis. Et donc, je crois que Marine Le Pen est beaucoup plus rassembleuse. Mais je ne jette pas la pierre à Marion. Je crois que ce qu'elle fait aussi, et c'est intéressant, c'est-à-dire dans tous les partis, dit, on a eu toujours besoin de think tanks, etc. Mais voilà, ces deux démarches respectables. Moi, je suis député. J'allais dire, on essaie d'être dans les élections, même si par moments, c'est moins prestigieux que d'être dans les clubs de réflexion.
Alors, l'intellectuel organique aujourd'hui de ce mouvement, de cette convention de la droite, c'était Éric Zemmour qui a tenu un discours extrêmement dur contre les musulmans. D'ailleurs, il y a plusieurs plaintes qui vont peut-être être déposé. SOS Racisme a évoqué leur intention de déposer plainte contre le discours d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours très dur qu'il a tenu ?
Écoutez, sincèrement, j'ai écouté via une chaîne de télévision le discours de Marion. J'ai pas pu écouter le discours d'Éric Zemmour. Voilà, Éric Zemmour est dans ses idées qui sont, à mon avis, pas fausses, de menaces concernant l'évolution de la France, concernant les conséquences de l'immigration et concernant la montée du communautarisme. Après, je ne sais pas exactement quel mot il est.
Alors, par exemple, il a tenu un discours sur la volonté d'extermination du mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans. Cite de manière précise la catégorie de la personne visée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoutez, faut pas tomber dans la caricature. Voilà, je pense que Éric Zemmour a entièrement raison quand il met le doigt sur des points clés, à savoir aujourd'hui une certaine pensée qui peut plus être défendue. Je trouve que on va tout à l'heure parler de Jacques Chirac. Si aujourd'hui quelqu'un disait les propos de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur, je pense que SOS Racisme porterait immédiatement plainte ou la LICRA, etc. Donc on a une sorte de désormais, je pèse mes mots, terrorisme intellectuel ou totalitarisme de la pensée, qui fait qu'il y a certains sujets dont on ne peut plus parler. Ensuite, quand Éric Zemmour dénonce la montée du communautarisme ou dénonce les dangers de l'immigration, je pense qu'il a raison.
Bah, ça dépend en fait où est-ce que vous situez le curseur, puisque, comme vous le savez, Thierry Mariani, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et par conséquent, le seul fait de dénoncer...
Où commence le délit ? Où commence le délit ?
Les tribunaux l'apprécient, par exemple. Éric Zemmour a été condamné.
Oui, d'accord, mais vous savez, une fois, on m'a remis un accessite au prix de l'humour politique. Et le président du jury me disait, vous savez, a commencé son discours en disant, on peut plus faire d'humour, on peut plus parler de rien. Aujourd'hui, tout est sacralisé, tout est diabolisé. Et il citait l'exemple du premier prix de l'humour politique qui était Michel Jobert, à qui on avait dit, qu'est-ce qui reste de la politique africaine ? Il avait répondu, Barbès Rochechouart. Si aujourd'hui un politique tenait ce discours, immédiatement il se fait attaquer. Regardez ce que vous venez de dire. Vous avez des associations dont la profession est de s'indigner et de porter plainte en permanence. SOS Racisme en est un bon exemple. Voilà, immédiatement, écoutez, moi je pense que le débat politique, ça doit pouvoir laisser les gens s'exprimer.
Sans tabou ?
Sans dépasser certaines limites.
Quelles limites ? Parce que, alors,
oui, mais ça commence, qu'elles sont difficiles. Ça commence où le racisme ?
Par exemple, voilà. Est-ce que le révisionnisme, c'est une opinion qui doit pouvoir être défendue selon vous,
Thierry ? Il y a une loi aujourd'hui qui interdit le révisionnisme.
C'est une bonne loi ?
C'est une loi qui doit continuer à être appliquée. Oui, c'est une bonne loi, je pense. Sur le révisionnisme, oui, sur la Shoah et tout, il n'y a aucun problème. Mais après, je le répète, quand vous dites Zemmour a été condamné par les juges, je serais curieux de savoir si aujourd'hui un politique disait l'immigration, c'est le bruit et l'odeur, comment réagirait une partie de la magistrature ? Est-ce qu'il ne serait pas condamné ?
Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'immigration ? Alors, il y a un autre thème qui a été très largement abordé par Marion Maréchal, par Éric Zemmour, le grand remplacement. Est-ce que, par exemple, ça, c'est une théorie qui, pour vous, permet d'écrire une réalité ?
Le mot, vous le savez, l'expression a désormais un sens est totalement diabolisé. Je ne veux pas m'arrêter à une expression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement un problème en matière d'immigration. À la fin du mandat de Macron, on aura très probablement entre 2 millions et 2 millions 500 000 étrangers de plus qu'au début du mandat.
2 millions
Ben oui, c'est pas compliqué. Faites votre compte. Si vous voulez, vous me réinvitez dans 4 ans. Aujourd'hui,
avec plaisir, mais...
Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est en gros 400 000 étrangers qui rentrent régulièrement.
Il y a 100 000 demandeurs d'asile
130 000,
chaque année.
130 000 demandeurs d'asile, 260 000 nouveaux titres de séjour donnés. Ça fait 400 000.
Vous savez à quel titre ils sont accordés ?
D'accord, mais la plupart restent. Ça fait 400 000, plus les étrangers en situation irrégulière qui rentrent. Et tout ça est en train d'augmenter. Je maintiens mon chiffre qu'il y en aura minimum 2 millions.
Oui, mais alors le problème, c'est que là, vous additionnez des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Est-ce que, par exemple, le regroupement familial, c'est quelque chose contre lequel vous voulez aller, Thierry Mariani ?
Je pense qu'il faut revoir les conditions du regroupement familial. Je pense effectivement qu'un étranger qui est en situation irrégulière ne peut pas faire venir son époux, son épouse ou ses enfants au bout d'une période trop courte. Je pense qu'il faut porter cette période minimum à 5 ans.
Voilà. S'il est en situation irrégulière, c'est très compliqué pour lui de faire venir...
C'est irrégulière, c'est une erreur. Alors, excusez-moi, en situation régulière. S'il est en situation irrégulière, il ne peut pas venir, il ne peut pas faire venir, bien sûr, sa famille. S'il est en situation régulière, aujourd'hui, la période est de 3 ans de mémoire, il faut augmenter les conditions de revenus, il faut augmenter les conditions, effectivement, aussi, de durée, voilà.
Mais alors, faut revoir justement ces conditions-là, est-ce que ça passe également par exemple, le fait de revoir le droit du sol, Thierry Mariani ?
Je pense qu'à terme, il faudra le revoir, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune assimilation. Voilà. Je vais vous prendre mon exemple personnel. Mon père était immigré italien. Pourquoi je pense que je suis bien intégré ? Pour deux raisons. Parce que j'ai été élevé principalement par ma mère. À l'époque, il n'y avait pas le regroupement familial. Et donc, quand on était immigré, quelle que soit sa nationalité, excusez-moi, on prenait une épouse ou un époux dans le pays. Et il y avait toujours dans le couple quelqu'un qui était là pour aider le gamin pour l'école, qui était là. Voilà. Mon père parlait très bien le français, mais il n'écrivait pas très bien. Il savait compter, heureusement. Il a fait chef d'entreprise. Moi, j'ai été élevé principalement grâce à ma mère. Voilà. Aujourd'hui, le regroupement familial fait que très souvent, j'ai été maire d'une ville comme Valréas. Qu'est-ce que je voyais ? Je voyais l'été.
Dans le sud.
Dans le sud, dans le Vaucluse. Je voyais l'été des personnes marocains ou algériens aller chez eux et revenir avec une épouse, excusez-moi, qu'ils avaient pris au bled, qui parlait pas un mot de français. Pauvre gosse. Pauvre gosse.
Mais je suis persuadé que les enfants les aimaient. Votre discours, comme vous le savez, oui. Votre père a dû souffrir du racisme anti-italien. Celui-ci était
Le racisme, c'est pas la xénophobie. Attendez, mon père a souffert, à mon avis, de xénophobie, mais c'est tout. Voilà, pas de racisme.
Alors, le racisme, c'est quoi ?
Le racisme, c'est quand on rejette quelqu'un pour sa race. J'ai entendu à une époque, effectivement, que les Italiens étaient rejetés parce qu'ils étaient étrangers.
Enfin, en tout cas, il y a eu, par exemple, des émeutes, y compris dans le sud de la France, contre les Italiens.
C'est une exception avec des morts, vous le savez comme moi. Mais moi, je mets ça dans la, faut pas confondre la xénophobie et le racisme, voilà. Je pense pas qu'il y a eu un racisme anti-italien ou un racisme anti-espagnol.
Est-ce qu'il faudrait excuser la xénophobie?
Non, bien sûr que non. Mais il y a une hiérarchie dans ce qui est inadmissible.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui peut aller jusqu'à l'exterminationnisme, jusqu'à la volonté d'extermination dans le racisme, alors que la xénophobie formule des préjugés, des stéréotypes, mais dans les deux cas, on a une incapacité de s'intégrer pour les individus qui en sont victimes.
Et on est d'accord, sauf qu'à une époque, je veux dire, à l'immigration, moi je suis pour une immigration qu'on peut intégrer. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir fait partie d'une immigration qu'on pouvait intégrer parce que l'un de mes deux parents était français. À cette époque-là, il y avait du boulot, etc. Vous croyez que c'est un service que donne l'Europe ? J'écoutais le reportage sur l'île de Lesbos il y a quelques minutes dans votre revue de presse. Est-ce que c'est un service qu'on donne à ces étrangers d'accueillir 13 000 personnes, de les parquer dans des camps ? Parce qu'en réalité...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque ces migrants, comme vous le savez, Thierry Mariani, ils sont arrivés au péril de leur vie sur cette île-là.
Je crois qu'il faut tout simplement dire très clairement que l'Europe est ouverte qu'à ceux qui ont un titre de séjour et tous ceux qui arrivent comme cela, il faut les reconduire sur leur territoire d'origine.
Il y a un en l'occurrence, la Syrie, on en reparlera tout à l'heure.
Combien sont de vrais Syriens ? Excusez-moi, combien sont de vrais Syriens ?
Alors, vous pensez qu'ils sont quoi ?
Je pense qu'aujourd'hui, pour connaître un petit peu, je vous rappelle que j'ai présidé la commission immigration réfugiés au Conseil de l'Europe.
C'est la raison pour laquelle on en parle
aujourd'hui. Vous dites que vous êtes syrien et puis c'est une carte d'entrée plus facile pour.
Mais s'ils ne sont pas syriens, ils sont quoi ?
J'en sais rien. Mais je veux dire, regardez, l'un des criminels il y a quelques semaines qui était afghan, il avait 3 dates de naissance, il avait 2 noms, etc. On sait très bien, pardonnez-moi, que dans les demandes d'asile, c'est un immense, je pèse mes mots, foutoir où une partie des personnes déclare n'importe quelle identité. Soyons pas naïfs.
Restons sur la question de l'immigration. On reparlera des questions internationales, Thierry Mariani, tout à l'heure. Je vais vous faire entendre le chef de l'État, Emmanuel Macron. C'était mercredi 25 septembre dernier.
Nous vivons depuis plusieurs années avec un accroissement des migrations. On a eu les grandes migrations liées à la crise syrienne en 2015. On a aujourd'hui de plus en plus de migrations qui viennent d'Afrique. Et nous allons de plus en plus vivre avec les migrations. Et donc, face à cela, nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Enfin, c'est pour moi le défi qu'on s'est fixé. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis, au fond, l'élection présidentielle à maintenant ? On a eu une très forte augmentation de nombre de demandeurs d'asile. Ceci est lié à un phénomène très compliqué, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de coopération en Europe. Et on doit regarder un petit peu la réalité de ce phénomène migratoire et donc prendre des décisions. Aujourd'hui, on est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France.
la voix d'Emmanuel Macron. Finalement, Thierry Mariani, vous qui êtes député européen Rassemblement National, Emmanuel Macron sur, par exemple, la question de l'asile, sur la question de l'immigration, il dit un peu la même chose que vous.
Non, mais c'est la voix d'Emmanuel Macron et puis c'est les actes d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, c'est un faux cul. Je pèse mes mots. Voilà, le discours, il est sympathique. Enfin, moi, je le trouve correct. Mais après, les actes, c'est quoi? 24 heures après ce discours, il était en Italie pour dire avec son homologue, enfin le président du Conseil italien, il faut faire désormais des règles en Europe que tous ceux qui n'accepteront pas la répartition des clandestins se verront pénalisés en ce qui concerne les dotations européennes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui tient un double discours en permanence. Il est aux manettes depuis deux ans.
On va en reparler.
Il est aux manettes depuis deux ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Jamais autant d'immigration en France. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas les propos que tient Monsieur Macron.
Mais non, parce que on va pas être d'accord sur les chiffres. C'est-à-dire que quand vous dites 2,5 millions, d'abord vous,
2 millions à 2,5 millions.
Sur la totalité du quinquennat. Vous sommez des individus qui n'ont pas du tout le même destin, il y a du regroupement familial,
ça fait un total de 2 millions,
parce qu'il y a aussi des départs, il y a des gens qui retournent dans leur pays pour prendre leur retraite. Bref, il faudrait faire les plus et les moins. Mais en l'occurrence, on a Emmanuel Macron, et d'ailleurs il est critiqué par les uns et encensé par les autres, Thierry Mariani, qui considère que la question de l'immigration doit être traitée par le gouvernement. Est-ce que vous pourriez, par exemple, lui apporter votre soutien?
Non, dans son approche. Parce qu'il y a en réalité une différence fondamentale.
Vous lui faites un procès d'intention?
Non, je ne fais pas un procès d'intention. Il est au pouvoir depuis deux ans. Qu'est-ce qu'il a fait depuis deux ans? Je vous rappelle quand même qu'il y a une loi d'immigration qui a été votée où tous les amendements proposés et par le Rassemblement National et par les Républicains ont été rejetés par La République En Marche. Donc c'est son bilan de ces deux ans. Sur l'immigration, il y a une différence fondamentale qui tient en deux phrases. Tout à l'heure, j'entendais dans la revue de presse, il faut partager le fardeau. C'est-à-dire que M. Macron,
ça,
par exemple...
Ça, c'est un peu plus de 100 000 personnes par an. C'est un chiffre. Bah oui, s'il s'agit des migrants et en l'occurrence de l'accueil des Syriens, vous dites que ce ne sont pas des Syriens, mais des Syriens, Afghans, Irakiens, puisqu'en fait ce sont les trois nationalités de tête à l'échelle européenne, on a affaire à finalement un petit nombre d'individus à l'échelle européenne, sauf si vous n'êtes pas d'accord, Thierry Mariani.
Écoutez, je pense que le problème, il n'est pas que des réfugiés. Je pense que le problème de l'immigration, ce sera le principal problème de l'Europe des 50 prochaines années à cause de la démographie en Afrique. Voilà, c'est pas une accusation. On a une démographie en Afrique qui est ce qu'elle est, on a une démographie en Europe qui est ce qu'elle est. Donc forcément, la croissance africaine étant plus faible, il est évident, et je les comprends, que certains vont venir chercher un mieux vivre en Europe. Donc le problème de l'immigration, il est simplement dans deux approches différentes. Soit celle que j'entendais tout à l'heure, partager le fardeau, c'est-à-dire on considère que c'est inéluctable. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vision de M. Macron qui, après avoir tenu des propos disant « il faut limiter, il faut contrôler
en France ».
Soit quoi?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre des murs?
Soit tout simplement.
Certains présidents le font, mettre des murs. Mais...
Oui, et dans certains pays, ça marche. Voilà, je suis désolé, dans certains pays ça marche. Moi, vous savez que j'ai été député des Français de l'étranger. Je regarde par exemple ce qui s'est passé dans des pays comme l'Australie. L'Australie, à un moment, a dit plus aucune entrée irrégulière. Il y a un moment où, par exemple, on peut faire traiter les demandes d'immigration irrégulière et de réfugiés politiques en Afrique.
Bon, on va continuer à en discuter dans une vingtaine de minutes, Thierry Mariani. Je rappelle que vous êtes député européen et membre du Rassemblement National. On se retrouve aux environs de 8h20 pour évoquer avec vous ce que vous considérez comme étant des solutions contre l'immigration. Je dis contre puisque vous considérez que le chiffre est aujourd'hui trop important. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
Et nous retrouvons notre invité Thierry Mariani, député européen, membre du Rassemblement National. On va faire un peu d'arithmétique ensemble, Thierry Mariani. Comment pensez-vous que le Rassemblement National puisse franchir la barre des 50% sans alliance aujourd'hui?
C'est impossible. C'est absolument impossible. Je pense qu'on est effectivement aujourd'hui à un moment charnière où, grâce ou à cause d'Emmanuel Macron, le système politique a explosé. Et je suis entièrement d'accord avec vous, gauche et droite, c'est fini. Le Parti Socialiste est en voie de disparition et les Républicains sont aussi, à mon avis, en voie de décomposition. Aujourd'hui, ça ressemble à l'UDF d'antan. Avant sa dernière étape, il reste des élus, il reste des cadres, mais les militants sont en train de partir.
Alors, vous êtes d'accord avec le billet de Stéphane Robert, mais alors, dans ces conditions, il vous faut, au Rassemblement National,
élargir.
Des alliés.
Bien sûr.
Qui
Mais il faut élargir tous ceux qui partagent nos valeurs. Et les valeurs, c'est quoi aujourd'hui? Ben, c'est effectivement ceux qui croient encore que la France en tant que telle a un avenir par rapport à ceux qui croient qu'on doit se dissoudre dans la mondialisation. Et donc des gens qui ont une sensibilité souverainiste. Vous en avez eu dans tous les bords dans l'histoire récente. Vous avez des gens aussi bien, j'allais dire, chez Mélenchon que chez Chevènement, que chez Montebourg, que voilà, ou que Républicain dont je viens. Voilà, la cible, c'est ça. Et ensuite, c'est une vision plus sociale de la politique, notamment quand je vois par exemple ce qui se prépare au niveau de la réforme des retraites, eh bien, je suis désolé, Marine Le Pen, par exemple, en matière de politique économique, n'a rien à voir avec ce proposé son père.
C'est ça que je ne comprends pas dans votre trajet, Thierry Mariani. Vous avez été au RPR, vous avez été aux Républicains, oui. Vous étiez la droite sudiste, mais une droite sudiste qui a quand même été très largement libérale. Et aujourd'hui, alors même que vous avez critiqué le Front National comme étant un parti trop à gauche sur les questions économiques, vous vous retrouvez à gauche, vous aussi?
Je me retrouve pas à gauche. Je trouve que aujourd'hui, la vraie question, c'est quelle autonomie nationale on peut encore retrouver. Je suis aujourd'hui député européen. Je m'aperçois que sur plein de sujets, en réalité, on n'a plus voir rien et qu'on subit. Voilà. Et c'est sans cesse le projet
vous
aujourd'hui.
Vous subissez quoi, par exemple?
Je vous prends un exemple. J'allais dire, c'est sans cesse le projet de Monsieur Macron. On ne s'est pas réformé l'asile en France, pour revenir à un sujet précédent. On va faire un asile politique européen. Comme si le fait de se mettre à 28, ça allait mieux marcher que quand on est tout seul.
L'idée, c'est de répartir ces 130 000 migrants qui, aujourd'hui...
130 000 en France. C'est bien plus que 130 000 dans l'Europe.
Ceux qui arrivent en Europe, si on prend par exemple les Irakiens, les Afghans et les Syriens, sauf si vous considérez que ces Syriens ne sont pas des vrais Syriens, vous en avez 130 000 qui sont arrivés l'an dernier. Comment vous voulez les répartir?
Mais il y a des pays qui ont le droit de dire qu'ils n'en veulent pas. Voilà, je veux dire.
Il y a des pays qui ont le droit d'être en dehors de l'Europe. Si vous êtes dans l'Europe, vous jouez le jeu de la solidarité.
Non, écoutez-moi, l'Europe, c'est pas, excusez-moi, en permanence baisser son pantalon devant ce que veut la Commission. Il y a des pays qui, notamment dans l'Est de l'Europe, qui ont choisi d'avoir, excusez-moi, une autre évolution.
Mais ils se situent clairement. C'est étonnant parce que c'est exactement le contraire de ce que promeut a priori le Rassemblement National.
Pas du tout.
Ces pays ont une logique mercantile. Ils sont là pour bénéficier d'avantages économiques et ils ne veulent pas d'une identité européenne. Vous êtes censé défendre une identité européenne et là, alors même qu'elle pourrait être défendue par la Commission, vous ne la défendez pas, Thierry
Mariani. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'identité européenne. Je sais ce que
vous
c'est.
Vous ne savez pas ce que c'est?
Non, mais parce que je ne sais pas ce que c'est.
Marine Le Pen n'arrête pas d'en parler.
Mais parce que l'identité européenne, attendez, si vous parlez de l'identité européenne au niveau de la civilisation, oui, je sais ce que c'est. Mais l'identité au niveau des intérêts.
En tout cas, ce n'est pas des droits de douane et ce n'est pas une sphère de prospérité comme le pense Viktor Orban en Tchécoslovaquie.
En Hongrie, vous voulez dire?
En Hongrie,
mais c'est pas grave. Mais écoutez, aujourd'hui, on sait très bien qu'en Europe, il y a désormais deux blocs. Il y a les vieux pays, d'ailleurs, c'est révélateur. Dans les accords pour se répartir les migrants, c'est toujours entre guillemets les vieux pays européens de l'ouest de l'Europe. Et puis, il y a les pays plutôt de l'est de l'Europe qui disent très clairement, on ne veut pas changer notre mode de vie. On ne veut pas avoir les problèmes de communautarisme que vous avez. On ne veut pas avoir la montée de l'islam dans notre pays. C'est leur droit. Voilà. Et donc, simplement pour revenir...
Mais c'est tout à fait leur droit. Mais le problème, et vous le savez bien Thierry Mariani, c'est qu'ils ont accepté d'adhérer à l'Europe et que donc il y a nécessairement des devoirs de solidarité.
Non, il n'y a pas les devoirs de solidarité dans le.
Excusez-moi. Pourquoi dites-vous ça, hein?
Non, parce qu'il n'y a pas de devoir de solidarité. Il y a avant tout, à mon avis, ce qui passe devant, c'est la souveraineté de chaque État. Il y a ce qu'on appelle la subsidiarité dans les traités européens. Certains États estiment qu'ils peuvent mieux contrôler, à juste titre, leur population qu'avoir des injonctions de Bruxelles. Voilà, la solidarité.
Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi être dans l'Europe?
Et parce que, effectivement, les États de l'Est, à mon avis, cet élargissement était prématuré et trop rapide. Les États de l'Est, vous le savez très bien, d'abord recherchaient deux choses. La sécurité, c'est pour ça qu'ils adhéraient en même temps à l'OTAN. Et ensuite, les subventions, c'est pour ça qu'ils ont adhéré à l'Europe. Aujourd'hui, et ces États défendent leur intérêt. C'est vrai que leur intérêt, que je ne partage pas, parce que moi je défends les intérêts français, c'est les subventions sans la solidarité.
Bon, alors, on est d'accord au moins sur un point, et c'est que si on refuse les migrants, on a une vision extrêmement restrictive de l'Europe, qui est uniquement une vision mercantile. Parlons un peu de l'OTAN, puisque finalement, s'il s'agit d'appartenir à l'OTAN, il s'agit de se protéger contre les Russes et votre parti, mais à l'intérieur de votre parti, vous particulièrement, Thierry Mariani, avez considéré qu'on pouvait s'entendre avec Poutine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous conciliez ces deux choses-là?
Bah écoutez, regardez tout simplement l'actualité de ces 30 dernières années. Combien de pays ont été attaqués par la Russie? Un ou deux? OK. Combien de pays ont été attaqués par les États-Unis? Voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, pour moi, la Russie n'est pas un danger. Je suis désolé. Ils ont fait, il y a quoi? Il y a le problème de la Crimée. La Crimée, pour les Russes, c'est leur Alsace-Lorraine. Voilà. La Crimée, en réalité, ça a été 25 ans ou 27 ans ukrainien. Voilà. Et donc, on peut discuter des heures sur la Crimée, la messe est dite.
On peut dire qu'il y a aussi d'autres problèmes, on peut parler du Donbass, on peut parler de l'Ukraine, mais plus précisément, est-ce que vous ne considérez pas...
On parle de l'Irak et de tous les États l'armée américaine...
Oui, justement, j'aimerais bien en parler, et notamment en parler également de la Syrie, Thierry Mariani. Mais avant cela, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a, chez Vladimir Poutine, une sorte d'idéologie pan-européenne, mais avec une spécificité, comme tout de même dans ce pan-européisme, qui est profondément anti-libéral. Il y a la volonté de créer une internationale anti-libérale. Est-ce que c'est ça, par exemple ?
C'est son droit. Mais attendez, nous, on a la volonté de créer une alliance
militaire. Moi, je parle du droit
de
Thierry Mariani. Est-ce que vous êtes plutôt séduit par cette internationale anti-libérale ?
Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire anti-libéral. Je veux dire,
moi, je vais vous expliquer. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une forme d'alliance. Les uns parlent de rouge-brun, les autres de refus du capitalisme qui serait considéré comme une idéologie cosmopolite. Est-ce que c'est, par exemple, à cela que vous adhérez, Thierry Mariani ?
Non, je pense pas du tout. Moi, j'adhère simplement à la souveraineté des nations. Je pense que la Russie, quand on regarde l'histoire de ces 30 dernières années, n'est pas un pays agresseur, en tout cas beaucoup moins que le sont les États-Unis. Deuxièmement, je pense que ma sécurité, pardonnez-moi, à Paris, elle n'est pas menacée par la Russie. Elle est plus menacée aujourd'hui par ceux qui supportent les terroristes. Alors, regardons du côté de l'Arabie Saoudite.
Qui soutient ?
Écoutez, regardez du côté du Moyen-Orient. Je veux dire, plutôt qu'aller lécher les babouches de Monsieur MBS ou du Qatar, on ferait mieux de regarder qui finance. Voilà. C'est eux qui me menacent. C'est eux qui sont responsables.
Et l'Iran ne vous menace pas ? L'Iran a tenté de faire un attentat sur le sol français il y a quelques mois et...
L'Iran a déjà des sanctions contre eux. Je vous ferai remarquer qu'on n'accueille pas les responsables iraniens tous les jours à l'Élysée. Voilà. Et c'est pas... Que je sache, j'ai jamais vu encore de photos.
On essaye d'avoir
avec notre
un discours.
Président,
on essaye d'avoir un discours différent vis-à-vis de l'Iran.
Ce que je veux dire par là, soyons sérieux deux minutes, c'est que la Russie nous menace pas. Ok, le dernier Cosaque à Paris, il était en 1815. Voilà, je comprends que des pays comme la Pologne ou les pays baltes sentent cette menace parce que les derniers chars soviétiques ont quitté en 1992 ou 13. Voilà, donc c'est beaucoup plus récent. Mais arrêtons de dire que la Russie menace l'Europe.
Mais il n'y a pas que le pouvoir militaire, il y a aussi ce qu'on appelle le soft power.
Je peux vous poser une colle ?
Allez-y.
Qui a le budget militaire aujourd'hui le plus important cette année ? La Russie ou la France ? Ben, je vais vous répondre, la France. Voilà.
Et parce donc, que tout simplement, la Russie est exsangue et que les conséquences de la politique économique de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'a pas du tout réussi à reconstruire l'économie.
Il a tous les défauts.
Il n'a pas tous les défauts. Il en a un, c'est que son économie ne fonctionne pas et donc il est obligé de tenter de ressouder son peuple sur des slogans nationalistes, faute d'avoir une économie qui fonctionne.
Il a fait un choix aujourd'hui, c'est de donner la priorité à l'économie, d'où la baisse des dépenses militaires. Quand on veut préparer la guerre, souvenez-vous de ce qu'a fait Hitler, on réarme son pays. Aujourd'hui, la Russie est l'un des rares pays au monde qui baisse son budget militaire.
Alors moi, je veux Thierry Mariani, juste sur le soft power, vous étiez par exemple au conseil d'éthique de Russia Today, la chaîne financée par... Non, c'est faux ?
Si, absolument, je dis, absolument.
La chaîne financée par le Kremlin, le soft power russe.
Comme Radio France est financée par la France, comme la BBC est financée
par la Grande-Bretagne. Oui, mais le pluralisme est plus présent, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec France 24, ou en tout cas les différentes chaînes qui sont financées, non pas par
tous les États
l'Élysée, mais financées par l'État français, ce qui est différent. Dans le cas de Vladimir Poutine, ce soft power, il ne vous paraît pas plus menaçant pour les intérêts français ?
Absolument pas. Voilà, c'est tout. La Russie s'est mise avec retard à ce que font les autres pays depuis longtemps. Attendez, pendant combien d'années?
Non, parce qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, sur le fait que France 24 est l'homologue de Russia Today. Vous avez le droit d'avoir votre opinion.
Mais France 24.
D'accord là-dessus.
Attendez, France 24, a de ses opinions, comme Russia Today a ses opinions. Le soft power, c'est quoi? Ça date pas d'aujourd'hui. Radio Free Liberty ou Radio Free Europe, au moment de la guerre froide, c'était quoi? C'était les Américains qui...
C'était a priori aider la démocratie.
Bien sûr.
Poutine aide la démocratie.
Et les Soviétiques faisaient exactement la même chose. Voilà. Donc, chaque État aujourd'hui a des moyens radio, etc. Et puis, les auditeurs choisissent. Voilà, Russia Today, aujourd'hui, pour l'écouter sur la télé, il faut vraiment avoir du courage parce qu'ils sont canal, je ne sais plus combien. Mais je répète tout simplement qu'on arrête de me dire. Moi, je suis plus inquiet par aujourd'hui Al Jazeera. Moi, je suis plus inquiet aujourd'hui quand je vois le financement de certaines mosquées par des États. Donc, arrêtons ce fantasme sur les Russes, quoi. Ça date de la guerre froide, c'est fini.
Vladimir Poutine ne menace pas la France.
Non.
Il menace les Syriens. C'est lui qui a frappé les Syriens, notamment.
Il a sauvé une partie des Syriens.
Comment ? Expliquez-nous comment Vladimir Poutine a sauvé la Syrie.
Il a sauvé, excusez-moi. Aujourd'hui, c'était quoi votre rêve ? Que le régime d'Assad s'effondre et qu'on ait Daesh au pouvoir ? Si jamais les Russes n'étaient pas intervenus, on aurait eu un deuxième Afghanistan. Voilà. Alors aujourd'hui, toutes les bonnes âmes disent « Mon Dieu, les Russes, c'est scandaleux, etc. » On regardait ce pays s'effondrer et en réalité, moi je pèse mes mots, je préfère un régime d'Assad qui n'est pas une démocratie exemplaire à un régime tenu par Daesh.
Thierry Mariani, je vais vous faire entendre le témoignage d'un médecin syrien.
Dans la première prison, là, j'ai pas été torturé, mais dans la deuxième, oui. Moi, j'étais attaché par les mains, par des menottes en plastique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mmh. J'ai été suspendu sur une porte, puis j'ai commencé à avoir une nécrose, comme vous voyez là, la déformation de ma main. Ils voulaient que j'aie une nécrose complète pour couper ma main, comme je suis un chirurgien, un médecin, et que j'ai soigné les patients. Et il m'a frappé, 4 personnes qui m'ont frappé, c'est le premier jour qu'on arrive, ils ont frappé tout le monde. 4-5 personnes sur vous, écrasées par les bottes, d'une manière incroyable. On entendait le craquement des côtes cassées sous les bottes. Et c'était horrible, c'était horrible.
Thierry Mariani, j'aurais pu laisser ce reportage en longueur avec ce témoignage de ce médecin syrien recueilli au micro de Zoé Varier. Mais bon, on l'a compris, c'est un témoignage absolument abominable. Comment peut-on supporter dans tous les sens du terme ce régime qui a autorisé pareille torture ?
Dans une guerre civile qui a duré 8 ans, il y a eu des exactions et il y en aura, hélas, tant que la guerre continuera de tous les côtés. Vous connaissez une guerre civile sans exactions ?
Mais qui a causé cette guerre civile ?
Ce témoignage est certainement vrai. À mon avis, l'Occident a une grande responsabilité.
Expliquez-moi pourquoi.
Excusez-moi, l'Occident a une grande responsabilité. Dans les terroristes qui restent aujourd'hui à Afrin, 30 000, on sait très bien qu'une partie ont été armées par nous. Voilà. Non mais, quand même, quand on regardera dans l'histoire le bilan de cette dernière période, on sera, je pense, pas très fiers de ce qu'on a fait en Irak. On sera pas très fiers de ce qu'on a fait en Libye.
Parlons de la Syrie, juste un instant, Thierry Mariani, parce que vous avez, a priori, une position qui est rare, alors certains peuvent le déplorer, d'autres s'en féliciter, mais en tout cas, une position qui est rare à l'échelle internationale. Vous êtes allé plusieurs fois en Syrie, vous soutenez le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut soutenir ce régime, alors
parce
même que c'est lui
député
qui est responsable de la guerre civile ?
Attendez, ou vous faites de l'immunitarisme, vous faites de la politique. La politique, c'est se poser en permanence quand on est député, quel est l'intérêt de la France ?
La politique, c'est pas plus on
l'intérêt
est cruel,
de la France,
plus...
Je peux finir de me répondre,
vous en prie,
merci. L'intérêt de la France aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Assad ou le Daesh ? Je suis désolé. Qu'on pense, même si c'est pas parfait, certainement, c'est tout sauf les terroristes. Voilà. Et donc, moi, je préfère une dictature, un régime autoritaire, mettez l'épithète que vous voulez, tout en condamnant toutes les exactions, qu'un régime terroriste. Regardez ce qui se passe en Afghanistan, on n'a toujours pas réussi à régler le problème après bientôt 20 ans. Voilà, et donc l'intérêt de la France, je pèse mes mots, c'est d'avoir une stabilité dans cette région. On parlait tout à l'heure des réfugiés. Excusez-moi, quand il y avait des régimes stables en Irak, en Libye ou en Syrie, ces réfugiés, ils restaient chez eux.
En Syrie, il y avait des forces démocratiques, les FDS notamment. Toute la stratégie de Bachar el-Assad a consisté à radicaliser ceux qui ne l'étaient pas encore, à supprimer les forces démocratiques pour qu'ils se retrouvent seuls dans un face-à-face avec Daesh et qu'ils puissent prendre à témoin l'opinion publique internationale en disant qu'il était le seul rempart contre Daesh. C'est cela en réalité toute sa stratégie, et vous savez fort bien que cette situation est une situation qui lui a profité, puisque aujourd'hui, il est effectivement dans une situation de relative stabilité en Syrie. Finalement, les principales victimes de sa politique ont été son peuple, Thierry Mariani.
Les principales victimes de cette guerre ont été son peuple.
Et c'est pas Daesh qui a tué les Syriens.
C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, franchement, il y a des moments où vous oubliez quand même rapidement les vidéos où les mecs, on les brûle, les exactions. Les 500 000 morts ou les 300 000, c'est Assad. Ok, donc tout c'est ça. Nous, on est responsable de rien. On a simplement mis dans ce pays, comme en Irak,
probablement 250 000 morts, c'est Assad, oui.
Personne ne le sait réellement. On a un institut à Londres avec 3 personnes qui publient des chiffres.
Je ne parle pas de cet institut-là.
Et tout le monde les reprend. Il n'y en a pas d'autres. Alors citez-moi en un second.
Je sais bien qu'il n'y a pas.
Il n'y en a pas d'autres.
Uniquement pour la surveillance en matière des droits de l'homme. Et vous confessez vous-même qu'ils sont bafoués. Donc il n'y a pas besoin d'un observatoire pour le savoir.
Vous pensez que Daesh, c'est mieux ?
Non.
Ben voilà, non mais attendez.
Pourquoi posez-vous cette question ? Vous savez bien.
Vous savez la différence entre vous et moi ? Vous, je vous respecte. Vous pouvez rêver à l'idéal. En politique, il faut choisir. Voilà, c'est tout. En politique, il faut choisir. Moi, je rêve d'un régime démocratique dans le monde entier où le droit des femmes est respecté, où la liberté religieuse est respectée. C'est pas la possibilité en Syrie. On n'est pas dans une situation gauche-droite. On est dans une situation où, et là, malheureusement, pendant des années, les gens, en fonction des tribus, se sont organisés et souvent se sont détestés. Ben, aujourd'hui, la solution, là, simplement, quand on va en Syrie, qu'est-ce qu'ils nous disent, les Syriens? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les intellectuels qu'on rencontre?
Ceux qu'on vous laisse, qu'on le vous droit laisse... de non, rencontrer,
je vois qui je veux. Je suis désolé. Enfin, ben, je vois qui je veux.
Vous êtes forcément encadré par l'armée.
Mais non. Mais attendez, moi, je suis désolé, je me balade tout seul. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens? Ils nous disent la même chose. Ils nous disent peut-être que le régime actuel, c'est pas l'idéal. Peut-être que le régime actuel, c'est pas ce qu'on rêve. Mais en tout cas, si c'était effondré, on était massacrés. Voilà, c'est tout.
Si vous le permettez, allez Thierry Mariani, vous avez une définition de la réelle politique qui est une définition par trop cynique et par trop machiavélique.
Non, par trop réaliste.
Non! Parce qu'en fait, au nom du réalisme, on peut tout justifier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ne justifiera pas? On peut justifier la plupart des
choses. Allez discuter avec le patriarche catholique qui vous expliquera ce qui se serait passé si le régime s'était effondré.
Moi, je vais vous dire les conséquences de cette réelle politique ou de ce que vous présentez comme étant le réalisme. On soutient les dictatures en considérant que les dictatures mettront un terme au désordre et à l'injustice, alors qu'en réalité, l'injustice est le pire des désordres, Thierry Mariani, et vous le savez bien, et c'est exactement non, la même situation.
Le pire des désordres, c'est l'anarchie. Il y a pire que la dictature, il y a l'anarchie. Je veux dire,
alors, la dictature, peut-être qu'on ne sera pas d'accord.
Eh bien, on ne sera pas d'accord. Voilà, le régime de Saddam Hussein en Irak, vous auriez pu rappeler que j'étais aussi l'un des derniers à y aller et à expliquer que c'était une stupidité. Le régime de
Saddam
Hussein.
J'ai pas dit que c'était une stupidité, au contraire. Je pense que c'est intéressant d'entendre votre voix, voilà. Puisque votre voix dissonne dans le paysage actuel.
Oui, mais malheureusement, l'actualité m'a plutôt donné raison.
Voilà. Non, elle ne vous a pas donné raison. Elle a juste considéré que lorsqu'on s'y mettait à plusieurs dictatures, on pouvait écraser un peuple libre. Mais ça, depuis l'Espagne de Franco,
on le sait. Quand on se met à plusieurs démocraties, on peut mettre un peuple complètement dans le désordre et dans l'anarchie. Il y a pire que la dictature, il y a l'anarchie. Je suis désolé, je prends l'exemple du régime irakien.
Vous savez, les anarchistes, généralement, ils sont régulièrement écrasés par les dictateurs depuis l'Espagne de Franco, c'est ce qui arrive.
C'était une dictature. Aujourd'hui, vous êtes retourné en Irak. Vous avez vu comment, quel est le statut des femmes. Vous avez vu où est tombée l'éducation. Ce pays qui était autosuffisant a été complètement détruit. Voilà, alors on a apporté notre démocratie. Ben écoutez, continuez à y rêver ici. Mais quand vous discutez avec les Irakiens aujourd'hui, là aussi, la nostalgie, elle est très claire. Ils vous disent quoi? Que leur régime d'avant, il y avait une répression politique. Sauf que, au moins, le pays continuait à se développer. Enfin, je vais dire une dernière chose. Les dictatures laïques, très souvent, évoluent. Les dictatures religieuses, jamais. On parlait tout à l'heure...
Bah, écoutez, la dictature de Saddam Hussein n'a pas non, mais évolué vers le bien. La dictature de Bachar... Bah, enfin, tous les bassistes se sont généralement transformés en
dictateurs. J'ai dit, les dictatures laïques, regardez l'Amérique latine, toutes les dictatures laïques, à coup d'état de généraux, les pouvoirs, petit à petit, a été rendus. Voilà. Vous voulez qu'on parle des dictatures religieuses dans le monde aujourd'hui? Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de l'Iran. Est-ce que vous croyez, par exemple, que si Daesh avait pris le pouvoir, au bout de 4-5 ans, ils auraient donné les clés en disant, tenez, on va faire une... Voilà.
Daesh n'est pas une cause, c'est une conséquence d'une situation qui a été construite.
Mais non, Daesh est la conséquence d'une politique américaine à un moment fait pour déstabiliser, financée par le Qatar. Je vous rappelle aussi l'interview du premier ministre du Qatar qui a dit, je ne veux pas me tromper de somme, mais qu'ils avaient investi plus de, je crois que c'est 23, mais vérifiez la somme, enfin elle est considérable, 23 milliards pour déstabiliser la Syrie. Voilà, c'est aussi une rivalité régionale où aujourd'hui on en est, excusez-moi, à tous à se jeter sur la Syrie et sur l'Iran pour satisfaire l'Arabie Saoudite qui finance ici les mosquées, la déstabilisation.
Thierry Mariani, tout à l'heure nous parlions de ce drame qui s'est déroulé sur l'île de Lesbos. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces migrants? Qu'est-ce que l'on peut faire? Ils sont là. Qu'est-ce que vous préconisez, vous et le Rassemblement National, pour ces gens qui sont aujourd'hui en détresse?
Je répète, il y a deux politiques. Soit on dit on est obligé de supporter le fardeau et on répartit. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'accepter ces gens. Parce que accepter ces gens, c'est leur donner la même chance que mon père a eue. C'est-à-dire un job, une école, des conditions, voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. La France est un pays riche. Oui, bien sûr. Bien sûr, la France est un pays riche.
Il y a 13 000 personnes dans ce camp de Lesbos. On peut très bien en accepter une part.
Je vous rappelle qu'on en a aussi des centaines à la chapelle en général, hein. Donc c'est pas la peine d'aller les chercher ailleurs. Donc je dis simplement, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on demande au Rassemblement National? Eh bien, on demande tout simplement à ce que la politique soit claire. On n'arrive plus en Europe illégalement. Et quand on est illégalement en Europe, on est reconduit dans ce pays.
Mais si c'est une question de vie ou de mort, Thierry Mariani, vous, moi, on les ramène en Afrique.
C'est ce qu'ont fait les Australiens.
Vous voulez les ramener en Syrie?
En Syrie, aujourd'hui, 80% du pays est safe. Et sécurisé.
Sauf pour ceux qui sont considérés comme des opposants de Bachar. Mais on va repartir sur la discussion.
Oui, je ne veux pas repartir. Une partie était... Et souvent, ce sont des déserteurs. Mais passons.
Voilà. Bon, on ne va pas être d'accord là-dessus. Mais En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce que le Rassemblement National propose plus généralement, puisque depuis le début de cette discussion, vous dites, voilà, il y aura bientôt 2,5 millions d'immigrés en plus.
Je dis en 5 ans, il y aura 2 millions d'immigrés en plus.
C'est ce que vous avez dit, j'ai compris ces chiffres. On ne va pas repartir sur les calculs, mais au final, quelles sont les solutions réalistes, puisque vous vous situez dans le camp des réalistes, vous avez plusieurs fois dit que c'était votre doctrine. Qu'est-ce qu'un réaliste peut faire pour juguler ce phénomène que vous jugez comme étant un phénomène néfaste, Thierry Mariani?
J'ai été député des Français de l'étranger, ça m'a donné l'occasion de regarder ce qui se passait ailleurs. La solution pour moi, c'est ce que fait l'Australie. C'est-à-dire un message très clair. À un moment, l'Australie avait exactement le même problème de bateau. C'est vrai que leur géographie est plus facile. Mais à un moment, ils ont dit très clairement, tous ceux qui veulent arriver en Australie, on prend les bateaux, on sauve les gens et on les amène sur des îles autour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les bateaux ont cessé, les morts ont cessé, parce que dans ce genre de mouvement, le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est venez en Europe, une fois que vous avez mis les pieds, vous y resterez.
Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait, Thierry Mariani?
Et ceux qui sont là, il faut les aider à retourner chez eux s'ils n'ont pas un vrai statut de réfugié politique, c'est-à-dire en général 80%. Je vous rappelle que c'est la proportion aujourd'hui en clair, enfin 80 ou 70% des gens en France.
Alors c'est quoi, 80% des 2,5 millions, si on reprend votre chiffre, Thierry Mariani?
Là, vous mélangez plusieurs choses.
Non,
là,
vous parliez
des gens de chez Lesbos, enfin, qui sont à l'heure actuelle sur l'île de Lesbos. Ceux qui ont droit à l'asile politique, à mon avis, maximum 20% doivent rester et doivent être protégés. Les 80 autres pourcents sont des réfugiés économiques. Ils doivent être reconduits chez eux parce qu'ils n'ont aucune raison de rester là. Et d'autre part, ceux qui sont à Lesbos le jour, en réalité, on sait très bien que c'est un camp qui se remplit régulièrement et que les gens peuvent sortir régulièrement aussi. Donc ça alimente l'immigration régulière en Europe.
J'aimerais terminer cet entretien, Thierry Mariani, en vous faisant écouter la voix de Jacques Chirac, puisque vous avez été, je crois, en 1976 adhérent au RPR.
Pendant 42 ans, entre le RPR, l'UMP et les Républicains.
On écoute Jacques Chirac.
Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme.
Le dernier discours de Jacques Chirac, comment conciliez-vous ce discours, Thierry Mariani, et votre adhésion au Rassemblement?
Parce que Marine Le Pen n'est pas extrémiste. Marine Le Pen tient paradoxalement le même discours que Jacques Chirac au début de sa carrière.
Elle n'a pas le droit d'assister à ses obsèques.
Parce que la famille a rejeté Marine Le Pen. C'est son droit. Voilà, elle n'est pas poussé la porte de l'église devant en disant je veux y assister.
Mais pourquoi sa famille l'a rejeté?
Ça posait la question à la famille. Voilà, c'est tout.
Vous avez une ou deux opinions là-dessus.
Mais parce que c'est une sorte de vendetta familiale, excusez-moi. À la limite, ils auraient refusé Jean-Marie Le Pen. J'aurais compris. La fille, elle est coupable de quoi? Elle est coupable de quoi? Elle a jamais été candidat contre Chirac.
L'entourage, les identitaires,
Avec l'entourage, on peut condamner plein de monde. Faites attention, parce que si moi je disais ça, voilà, son entourage, c'est quoi? Elle a jamais été condamnée. Avec ces notions de vous êtes coupable parce que votre entourage, etc.
Non, enfin, votre entourage, c'est-à-dire les personnes qui la conseillent.
Je connais les personnes qui la conseillent aujourd'hui. J'ai jamais vu ces personnes-là, point final. Donc je dis tout simplement que Marine Le Pen aujourd'hui, c'est une sorte de vendetta familiale. Le clan Chirac ne la veut pas. Bon voilà, elle sera. Il faut savoir qu'il faut faire un édit disant que la famille Le Pen est maudite jusqu'à la 8e génération.
Non.
Ensuite, je ne considère pas que Marine Le Pen du tout soit un extrémiste. Vous savez, quand je vais dans les réunions du Rassemblement National, vous savez ce qu'ils me disent les militants? Ah, j'étais comme vous au RPR en telle année. Aujourd'hui, la plupart des anciens militants, ils ont un certain âge, la plupart des anciens militants des Républicains, pardon, du RPR, c'est pas la même chose, se retrouvent chez Marine Le Pen parce qu'en réalité c'est le même discours, sauf que nous on l'a pas appliqué. Voilà, vous avez passé cet extrait, vous auriez pu passer aussi l'extrait où Jacques Chirac disait « le bruit et l'odeur », et si Marine Le Pen disait ça aujourd'hui, vous diriez « quel fasciste ».
Les temps ont changé.
Oui, les temps ont changé, mais d'accord, mais Marine Le Pen aussi, dites-moi le propos qu'elle a tenu, un propos comparable à « le bruit et l'odeur ».
Non mais le propos de Marine Le Pen, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, elle est dépassée, en tout cas c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure sur sa droite, par Marion Maréchal, par Éric Zemmour.
C'est pas elle. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais vous n'allez pas rendre Marine Le Pen responsable
des propos de sa nièce. En revanche, Je considère que cette situation avec cette convention de la droite, puisque nous parlons au lendemain de cette convention de la droite, elle est une manière de normaliser le Rassemblement national. Peut-être que ça vous arrange à cet égard, Thierry Mariani.
Vous voyez, ça prouve finalement que Marine Le Pen est peut-être pas si extrémiste que ce que vous voulez le croire, et qu'elle est, je ne vais pas vous dire qu'elle devient centriste, mais en tout cas, qu'elle est finalement.
Avant, c'était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas vous allier avec le Front National.
Sur les questions.
Je vais vous rappeler vos propos d'antan.
Absolument, sur les questions sociales. Mais vous savez aussi pourquoi j'ai quitté le Rassemblement, enfin les Républicains, le RPR et tout. Parce qu'en réalité, la droite, Jacques Chirac compris, j'ai un profond respect, j'ai adoré Jacques Chirac humainement. Le bilan politique, on le fera plus tard. La droite, pendant des années, tient des discours et les applique jamais. Quand j'entends Julien Aubert aujourd'hui ou d'autres...
Le Rassemblement National n'ayant jamais été au pouvoir...
Donnez-leur au moins... La droite a été au pouvoir.
Les auditeurs qui décideront.
La droite a été au pouvoir pendant des années et n'applique jamais ses discours. Voilà pourquoi je crois que la seule alternative aujourd'hui, c'est effectivement le Rassemblement National.
Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir exposé vos points de vue. Je rappelle que vous êtes député européen et membre du Rassemblement National.